RFI Actualité, Nathalie Amar.
12h10, temps universel, lors de retrouver notre grand reportage du jour. Nous sommes aujourd'hui en Moldavie, ancienne république soviétique coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, et tiraillée aussi depuis l'éclatement de l'URSS entre l'Est et l'Ouest. Ce dimanche, les 4 320 000 habitants du pays seront appelés aux urnes pour des législatives dont les résultats seront observés de très près. Depuis 8 ans, les communistes sont au pouvoir. L'opposition voudrait bien renverser ce régime qu'elle dit autoritaire et corrompu, mais le pays doit se battre avec un contexte social très dur qui en fait le pays le plus pauvre d'Europe. Grand reportage, Camille Magnard.
Maintenant, nous allons dans le district Cantemir où nous aurons un marche contre la corruption, parce que la lutte contre la corruption est notre principal slogan. Parce que la République de Moldova, à cause du fait qu'elle a une classe politique internationale, est tout à fait pénétrée par la corruption, en commençant avec les autorités de premier niveau jusqu'à la présidence.
Ces trois dernières semaines, Vitalia Pavlichenko, la tête de liste du mouvement Action Européenne, n'aura fait que cela, multiplier les meetings, les marches et les discours à travers toute la Moldavie. Ce dimanche 5 avril, près de 4 millions de Moldaves sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau parlement, un parlement qui à son tour devra se charger de désigner le futur président de la République Moldave. Depuis 2001, c'est le parti communiste et son chef, le président Vladimir Voronin, qui occupe le pouvoir. La dénonciation d'un pouvoir communiste, autoritaire et corrompu, c'est le fond du discours de l'opposition moldave dont fait partie le MAE. Mais le parti a bien peu de chances d'entrer au Parlement et sur la grande place de Cantemir, ce jour-là, le meeting est loin d'avoir fait le plein malgré quelques groupes de militants enthousiastes ramenés de la capitale et quelques poignées de villageois franchement sceptiques. Sur la route vers Chisinau, la capitale, se succèdent les petits villages. On y croise bien souvent que des personnes âgées ou des enfants. Les actifs, pour la plupart, sont partis tenter leur chance à la capitale ou à l'étranger. Il serait près d'un million, un quart de la population, à vivre en Europe, en Russie ou en Ukraine, la plupart du temps illégalement. Katia, 53 ans, a une fille qui travaille en Serbie et un fils à Moscou. Elle est restée au village avec son compagnon Kostia pour garder la maison, comme ils disent. Tous deux vivent grâce aux terres du village et à leur cave qu'ils remplissent chaque automne de conserve maison pour passer l'hiver.
Moi, je ne vis que grâce à ma retraite. Je reçois 800 lei, 55 euros. Et je peux vous dire que ce n'est pas beaucoup. Même si elle a été augmentée de 20%, ça ne me permet pas de vivre comme il faut.
Kostia et Katia font partie de ceux qui vont voter communiste ce dimanche.
Bien sûr que je m'intéresse à ces élections et que je vais voter. Vous savez, le système actuel est pas si mauvais. Les salaires et les retraites sont versés à l'heure. Ils ont même été majorés. Les communistes, au moins, on les connaît. Les autres, on ne les connaît pas. Alors on n'ose pas trop essayer de changer.
Ce discours, c'est celui qui revient le plus souvent chez les électeurs communistes des campagnes. Un mélange de résignation, de peur du changement et une absence de remise en cause du pouvoir en place pour peu que les maigres conditions de vie soient maintenues. Emilian Galaisiu-Parn dirige la maison d'édition roumanophone Cartier à Chisinau. Pour lui, le vote communiste est avant tout une survivance de l'époque et de la mentalité soviétique.
Je ne sais pas si ce nom, on peut parler d'une vraie communiste. C'est une sorte de marque commerciale qui gagne parce qu'il y a plein de nostalgiques. Il y a une énorme inculture, pas seulement politique, sociale. Il y a plein de gens qui ont les anciens réflexes d'homo soviétique. Très facile à manipuler parce que c'est toujours le parti qui décide pour lui, c'est toujours le chef.
Emilian fait partie de ces jeunes intellectuels farouchement anticommunistes et attachés à l'identité roumaine de la Moldavie. La maison d'édition Cartier vend ses livres à Bucarest comme à Chisinau et elle a ouvert 5 librairies à l'européenne dans le centre de la capitale moldave. Un engagement culturel qui attire spontanément Emilian vers l'opposition démocratique, même s'il reste très critique. Pas moins de 25 petites formations d'opposition qui se revendiquent presque toutes libérales, démocratiques et européennes sont en lice ce dimanche 5 avril face au Parti communiste.
Si on regarde par exemple la presse, c'est toujours les partis démocrates qui luttent entre eux, qui s'arrachent les yeux, les dents. Bon, ça je comprends parce que ils ont presque le même électorat. Ils ne peuvent pas lutter pour l'électorat communiste. Je ne crois pas que les partis démocrates peuvent convaincre les vieux, les nostalgiques de voter, et les Russes surtout, de voter démocrate. Je ne crois pas. Mais entre eux, c'est une lutte extrêmement incorrecte et pas très sympathique.
Une telle dispersion des voix d'opposition pourrait bien faire le jeu du pouvoir communiste, qui a de fortes chances dimanche d'arriver en tête d'un scrutin à la proportionnelle. Ces dernières années, pourtant, on a beaucoup annoncé un recul électoral du parti. Les communistes ont notamment perdu la mairie de Chișinău au profit des libéraux lors des dernières élections municipales. Le PC Moldave a donc battu la campagne, comme les autres, ces dernières semaines. Ce mardi, par exemple, c'est devant les étudiants de l'université agraire de la capitale qu'un député communiste est venu défendre le bilan et le programme de son parti. Dans l'amphithéâtre bondé, on aborde librement tous les sujets majeurs de la campagne. Économie, Europe, Russie et liens avec la Roumanie. À l'issue de la rencontre, le député Marc Tkachuk, éminence grise du président Voronin et directeur de la campagne communiste, affiche son espoir pour ces élections.
Je peux vous dire une chose, c'est que nous nous attendons à une victoire plus importante qu'en 2005.
Et ce succès annoncé, selon le député communiste, doit beaucoup à un projet politique qu'il veut rénovateur.
Nous gagnons parce que nous partons du principe que ce qui importe, ce n'est pas la couleur du drapeau, mais qui porte ce drapeau. Notre parti a connu un important processus de relookage, notamment en ce qui concerne nos symboles, notre idéologie communiste. Nous, à la différence des autres partis communistes, nous ne restons pas attachés au passé. Nous ne le trahissons pas pour autant. Nous nous orientons vers le futur, mais nous conservons le respect des générations précédentes.
Le résultat a de quoi déconcerter. Les références à Lénine cohabitent dans le discours du parti avec un capitalisme décomplexé. En témoigne le cas gênant du fils du président Voronin, Oleg. La journaliste Sorina Ștefarța est rédactrice en chef du quotidien moldave Timpul. Dans les bureaux de ce journal, considéré comme proche de l'opposition, on s'intéresse de près aux affaires de ce fils prodigue qui n'est autre que l'homme d'affaires le plus puissant du pays.
Parfois je crois que ce sont des fantasmes. Mais, le même temps, quand je parle avec des hommes d'affaires, tout le monde d'affaires confirme que le clan Voronin et que son fils a l'habitude d'accaparer les plus importantes affaires de Moldavie. Le mois de février, nous avons publié une grande investigation, les affaires du clan Voronin. Nous avons parlé des cas les plus connus. C'est l'histoire de son banque, Fincombank, qui a convaincu le plus important ministère de Moldavie d'être le client de Fincombank ou le plus important organisme financier d'ici.
Et les pages de Timpul, le journal de Sorina Ștefarța, sont pleines de ces histoires de cadeaux en nature faits par l'administration communiste aux électeurs les plus fragiles ou encore de partis d'opposition tenus éloignés des médias nationaux. Pour la journaliste, même si l'OSCE reconnaît le scrutin de dimanche comme libre et démocratique, la campagne en amont aura été entachée de nombreuses irrégularités. C'est aussi l'avis d'Oleg Serebrian, politologue, député et tête de liste du Parti démocrate moldave.
Nous avons peur d'une fraude massive quand même. Il y a déjà des signes qui ont annoncé la possibilité des fraudes. 600 000 personnes dans les listes et qui ne sont pas des personnes existantes. Ce sont parfois des morts, il y a d'autres choses. Les débats, ce ne sont pas des débats, la télévision nationale. Le fait que les communistes utilisent des télévisions, soit publiques, soit privées, à leur intérêt. L'intervention des structures de sécurité dans la campagne électorale, l'intimidation, donc les signes d'une fraude massive sont déjà. On va voir, nous espérons que le jour des élections, quand même, tout va se passer bien et correct. Mais nous avons peur.
Le plus gros problème de la Moldavie, c'est le manque d'identité, ou plutôt le trop grand nombre d'identités.
Christian Zilberberg, responsable d'ONG à Chișinău.
Une partie des Moldaves se considère moldave, une partie se croit roumaine, une partie n'a pas d'idée très claire de comment se positionner entre la Moldavie, la Roumanie, être proche de la Russie, de l'Europe. Il y a donc des visages multiples et au final, pas d'identité forte. Nous avons toujours été une partie d'une identité plus grande. Et la chute de l'URSS a amené une crise très grave d'identité qui dure toujours, avec beaucoup de gens qui voudraient s'unir à nouveau avec l'URSS ou la Roumanie. Ils ont besoin d'avoir à nouveau une grande idée identitaire, comme celle que leur proposait l'URSS. Et mon idée, c'est de remplir ce vide avec une autre idée forte, celle de l'identité européenne.
L'idée européenne, le soutien à l'intégration de la Moldavie dans l'Union, voilà un thème qui semble faire l'unanimité dans la campagne électorale. Les communistes au pouvoir peinent à choisir entre une Moldavie tournée vers la Russie ou vers l'Europe, mais sur le papier, le président Voronin soutient la marche vers l'intégration. Ce tiraillement de la Moldavie entre Est et Ouest, il vient aussi de l'intérêt que le pays représente pour les grandes puissances qui l'entourent, la Russie notamment. Et là, ce n'est plus à Chisinau, la capitale, que ça se joue, mais à une heure de bus, plus à l'Est. Peu avant le pont métallique de Bender, qui enjambe le fleuve Dniestre, se dresse une frontière au milieu de ce qui est officiellement le territoire moldave. Cette frontière où patrouillent des soldats russes, c'est celle qu'a érigée en 1992 la République moldave autoproclamée de Transnistrie. Un territoire grand comme un département français et qui s'étire entre le Dniestre et la frontière ukrainienne sur 200 km du nord au sud et seulement une vingtaine en moyenne d'est en ouest. À la chute de l'URSS, cette région très industrielle et plus russisée que le reste de l'ex-république soviétique a fait sécession et s'est battue pour son indépendance avec la bienveillance de l'armée russe. Depuis, les soldats de Moscou sont restés officiellement avec une mission de maintien de la paix et la République de Transnistrie existe de facto sous perfusion russe, même si elle n'est reconnue comme un État indépendant par aucun pays au monde.
This is Tiraspol, the capital of Pridnestrovian Moldavian Republic.
À Bender, en 1992, la guerre a fait des centaines de morts de chaque côté du fleuve. Mais 17 ans plus tard, sur le marché de la ville, il est toujours difficile de savoir comment les gens d'ici se situent exactement.
Moldavie, Transnistrie. Maintenant, oui, c'est la Transnistrie. C'est notre État, en tout cas.
Piotr, 50 ans, travaille comme vigile sur le marché de Bender.
Moi, je ne me sens pas attaché à ce pays. Je suis nostalgique de ce qu'on était avant, quand c'était l'Union soviétique. Au temps de l'URSS, là, au moins, on savait quelle était notre patrie. Maintenant, ici, beaucoup considèrent que c'est la Russie, notre patrie. Moi, par exemple, je suis russe, et il y en a beaucoup comme moi. Ici, ce n'est pas un État indépendant, c'est une région, une filiale. Nous sommes dépendants de la Russie pour tout.
Piotr est d'origine russe, ou plutôt, comme beaucoup ici, il a des documents d'identité transnistriens, mais comme aucun pays ne reconnaît ces documents, il a dû demander la double nationalité russe pour pouvoir voyager et tout simplement exister à la face du monde. Dans le centre de Tiraspol, la capitale transnistrienne, une petite maison neuve attire chaque jour un attroupement de plusieurs dizaines de personnes. Pas de plaque ni de drapeau et pourtant, nous sommes devant le consulat russe de Transnistrie. Un consulat non officiel puisque le pays n'a pas été reconnu par Moscou. Ici, pourtant, on peut obtenir sans difficulté un passeport russe. Il suffit de remplir des papiers et d'attendre que le vigile à l'entrée appelle votre nom. Oleg, 20 ans, attend son tour, comme les autres. Il fait partie de la jeune génération, celle qui n'a pas connu la guerre, et pour qui être citoyen de Transnistrie, c'est surtout beaucoup de contraintes pour bien peu de fierté patriote. C'est pourquoi, après son service militaire, Oleg a décidé, lui aussi, de demander une double nationalité.
On a le choix entre la nationalité moldave ou la russe. Moi, j'ai choisi la nationalité russe parce que c'est celle qui offre le plus de possibilités. Et puis, je fais plus confiance à l'État russe qu'au mien. Ici, on ne m'a rien donné. On ne m'a jamais aidé quand j'en avais besoin.
Et quand on lui demande pourquoi existe cette frontière avec la Moldavie, Oleg a bien du mal à répondre.
Je ne sais pas, il y a des gens qui en ont décidé ainsi. Vous savez, on nous dit de vivre comme ça et nous, on vit, c'est tout.
Difficile aujourd'hui de comprendre comment un État de facto perdure artificiellement depuis 17 ans en violation de l'intégrité territoriale moldave. À Chisinau, on a bien sa petite idée sur la question. Ion Stavila est le vice-ministre moldave chargé de la réintégration de la Transnistrie.
Nous considérons que la Transnistrie ne possède pas des droits et des arguments sérieux pour justifier la séparation et la création d'un État indépendant. En Transnistrie, il n'existe pas une population qui a une identité ethnique, culturelle et religieuse différente que la population du côté droite. Aujourd'hui, le problème transnistrien est utilisé par Moscou comme un levier pour préserver la Moldavie dans la sphère d'influence de la Russie et de l'empêcher de s'intégrer dans l'Union européenne.
Ce dimanche 5 avril, il n'y aura pas de bureau de vote moldave en Transnistrie, mais 10 bureaux seront ouverts sur la frontière pour les Transnistriens qui voudraient voter. La question transnistrienne est donc bien au centre des débats dans cette campagne. À elle seule, elle conditionne tout l'avenir d'une Moldavie toujours sur le fil entre désir d'Europe et sphère d'influence russe.
Grand reportage en Moldavie, donc un grand reportage que vous signez, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'RFI à Kiev. Alors le cas de la Moldavie, c'est en fait emblématique des difficultés qu'ont les ex-républiques soviétiques à sortir de la sphère d'influence des Russes.
Oui, vous avez raison, la situation qu'on vient d'évoquer en Moldavie, et notamment ces liens qu'elle garde, que garde la Russie sur son étranger proche, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la plupart des républiques d'ex-URSS. En Moldavie, surtout en Transnistrie, l'un des enjeux majeurs, c'est la présence d'une importante composante de population qui est d'origine slave russe et qui est arrivée ici pour la plupart au XXe siècle. Cette population, elle est très marquée par la période soviétique, elle est très attachée à son identité russe, et elle fait pencher le pays plutôt vers Moscou que vers Bucarest ou Bruxelles. On peut dire la même chose pour les États baltes ou l'Ukraine par exemple. Et puis bien sûr il y a la présence de ce conflit gelé en Transnistrie, on l'a entendu, c'est un facteur de plus qui maintient la Moldavie sur orbite russe, et là encore cette situation rappelle celle de la Géorgie avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, ou bien celle de l'Ukraine avec la Crimée.
Alors est-ce qu'il y a une issue possible pour la Moldavie à ce conflit de la Transnistrie d'après vous?
Oui, alors sur cette question de la résolution du conflit, il faut remarquer que l'année 2008 a été celle de la reprise des négociations officielles entre Chisinau et Tiraspol, avec bien sûr une médiation très forte de la Russie. Et puis ces dernières semaines, avec la campagne électorale en Moldavie, le président Voronin a tout fait pour montrer à ses électeurs que le processus de résolution avance dans la bonne direction. Mais reste encore à savoir dans quelle direction. Tout le monde officiellement est d'accord sur l'idée de négocier, mais pas vraiment sur ce qui est négocié. En fait, les deux camps ne parlent pas vraiment de la même chose. La Transnistrie vise une reconnaissance officielle de son indépendance, alors que la Moldavie, de son côté, a pour objectif la réintégration de la région séparatiste sous son autorité. Donc, on voit que la route va encore être longue dans les deux cas. Tout dépendra aussi de l'attitude de la Russie. Et enfin, de leur côté, l'Europe et les États-Unis mettent la pression sur le Kremlin avec cette idée de faire de la Transnistrie une sorte d'anti-Ossétie du Sud, c'est-à-dire un exemple de résolution pacifique et négociée de ce type de conflit gelé dans la région.
Alors, les élections de dimanche, Camille, on va rappeler simplement que dans le cadre de la préparation, il a été difficile pour les partis d'opposition d'accéder aux médias. Et il y a aussi le cas des émigrés moldaves à l'étranger, en Russie ou ailleurs. Ils sont environ 1 million, c'est beaucoup, hein, rapporté à la population du pays. Et eux, ils vont avoir du mal à voter.
Oui, d'ailleurs, l'opposition a beaucoup fait campagne sur ce thème. On accuse le pouvoir communiste de n'avoir rien fait pour permettre à ce million de Moldaves de l'étranger, un quart de la population, de voter dimanche. La Moldavie ne possède que 28 représentations diplomatiques à l'étranger. Et donc, dans la plupart des cas, les émigrés ne trouveront tout simplement pas de bureau de vote dans le pays où ils se trouvent. Et même quand il y a une ambassade moldave dans le pays, comme par exemple en Irlande, il sera techniquement impossible pour les dizaines de milliers de Moldaves qui vivent là-bas de voter au même endroit et le même jour. Alors derrière cette question, il y a bien sûr un enjeu politique très fort pour l'opposition, parce que ces émigrés sont majoritairement des jeunes qui ont étudié ou qui travaillent en Europe. Ils vivent en général mieux que les Moldaves de Moldavie et ils ont un regard beaucoup plus critique sur le pouvoir communiste. Et donc on peut imaginer que leur vote dimanche, un vote massif, aurait pesé très lourd dans le résultat du scrutin.
Camille Magnard, merci. On vous retrouvera bien sûr dimanche pour suivre ces élections législatives en Moldavie. Grand reportage, c'est également sur internet www.rfi.fr. Lundi, nous serons en France au cœur de l'UMP, le parti présidentiel. Un grand reportage signé Valérie Gasse.